bon, on est bon.
Et à chaque fois, tu donnes un quart de tour.
Un quart de tour.
C'est-à-dire, tu plies comme ça. Et tu, là, tu vois, je l'ai fait. Et un quart de tour.
Et tu replies comme ça.
Il y a moyen d'avancer un peu l'année. Parce que je suis à bout de dos, là.
Est-ce qu'il y en a un qui peut réexpliquer? Parce que je suis pas sûre qu'on enregistre au début.
Oh non.
Je préfère vous le dire maintenant.
Alors. Donc on a notre bâton, on prend la. On tape au fond de la mêlée et après on rabat pour faire un, pour commencer le pétrissage et puis on tourne un quart de tour et on recommence.
Du coup c'est un rôle d'aération de la pâte, hein, c'est ça?
Oui, ah, ouais. Oui, puis mettre faire ensemble rassembler le réseau de protéines pour que ce soit bien alvéolé à la fin. Parce que le pain c'est bon et qu'on a un four à
c'est la vie.
Un four à pain. On va inaugurer avec des pour du pain, de la tourgoule.
La tour quoi?
La tourgoule. Du riolet. Qui va cuire toute la nuit, tranquillement.
Okay.
Oui,
il va falloir.
Voilà,
bah,
c'est bon, Pétrissa. Il va falloir s'arrêter.
C'est bon là, ça suffit.
Ta tourboule, il faut la tourboule.
C'est ce que j'ai à dire. Je l'ai senti là, il commençait à être bien.
Il commençait à craquer.
On rassemble tout du coup.
Oui,
on
fait
on peut les laisser l'un à côté de l'autre, ils vont s'en rejoindre. Autrement, ça va gonfler.
Ça va.
Vous
revenez
dans combien de temps après?
Une heure.
Là, on va faire une fermentation longue, comme c'est un pain en levain. Et on va le laisser lever jusqu'à ce soir, 20h, 21h, pendant.
Il n'y a pas un truc humide dessus, non?
Si, il y a un truc. Donc il est 14h30 jusqu'à 20h30, ça va faire 6h
de pouce.
6h de pouce, tranquille.
Voilà. C'est trop bon.
C'est pas bon pour la santé, mais c'est trop bon.
Pour la santé, il faut prendre la dose, quoi. Après, on ne mange pas un kilo non plus.
Oui, ouais, c'est bien digéré.
Parce que là, tu vas bien te sentir balayé.
Alors, en se baladant du côté de la cantine des Beaux-Restes, rue Pierre-Maître, on est tombé sur la semaine prochaine. Et là, on voit plein d'agitation. Et nous sommes entrés et j'ai rencontré Sandrine. Et du coup, Sandrine, bonjour et explique-nous qu'est-ce que la semaine prochaine.
Bonjour. Eh ben, la semaine prochaine, c'est tout un tas d'activités. Donc, ça a commencé par l'inauguration d'un four en terre crue. Qu'on a donc la semaine elle est coportée par deux associations principalement Les Bons Restes et Des Idées Plein la Terre. Et ce four il l'avait lui été construit avec deux autres associations qui sont la Ferme Rémoise et l'École des Jardiniers. Donc la semaine est partie de là et d'une autre idée d'accueillir des chercheurs qui travaillent sur le matériau terre crue. Donc de les accueillir ici pour aménager les espaces extérieurs du terrain. Et autour de ça sont venus se greffer d'autres ateliers autour des savoir-faire, donc la vannerie, la poterie, la construction de mobilier avec du bois de récup, donc du bois de palette. Et puis on a voulu ajouter aussi des moments festifs, donc le bal folk, des concerts, voilà, des ateliers de poésie sonore.
Le programme est très riche du coup. Et
le programme est très riche.
Qu'est-ce qui vous a donné l'envie? Comment avez-vous décidé de créer, de faire autant d'ateliers en fait? Qu'est-ce qui les anime?
Et ben en fait la base c'était vraiment d'accueillir les chantiers. Et après, comme on était un petit collectif d'organisateurs, chacun a apporté son idée. Et en fait, tout le monde a répondu présent. On est allé solliciter des structures et tout le monde a répondu présent dans celles qu'on avait identifiées. Donc voilà pourquoi le programme est si riche que ça.
Chouette. Après, il est riche, mais même si c'est très diversifié, on sent quand même une âme commune dans tous les ateliers qu'il y a, celle de partage de connaissances, transmission de savoir et de savoir-faire. Et alors, je vais aller interviewer après les personnes qui sont en train de travailler. Du travail, mais je vais aller voir ceux qui font joujou dans la boue après. Mais c'est
Eh bien oui, en fait, que ce soit les bons restes ou des idées plein la terre, on est sur cette notion de faire ensemble et d'apprendre par la pratique.
D'accord.
Donc que ce soit dans la cuisine ou dans la construction ou dans les ateliers, là où il y avait des initiations, l'idée c'est de remontrer comment on fait, comment chacun peut faire et apporter quelque chose. Donc c'est vraiment l'idée, que ce soit même l'atelier de poésie sonore, en fait chacun peut écrire un texte, le réciter devant les gens. Donc voilà, que ce soit participatif et que tout le monde apprenne et puisse partager des choses, c'est en fait l'essence des deux assos.
D'accord. Vous avez beaucoup d'inscriptions, vous refusez du monde. Est-ce que majoritairement les personnes sont déjà des personnes sont habitués à ce genre d'atelier ou de façon de...
Alors sur les ateliers, ça s'est vraiment très bien rempli. On était complet sur quasi... quasi la majorité des ateliers étaient complets. On a réussi via le fait d'être plusieurs structures à animer, à toucher des gens, enfin en tout cas pour les bons restes, des gens différents. Des gens qui n'avaient pas forcément l'habitude. Je prends l'exemple de l'atelier réparation là, qui a eu lieu. Il y a des gens qui ont découvert via le bal folk qui a lieu à la suite et qui sont venus en fait l'après-midi en se disant j'ai un grille-pain qui est cassé donc je débarque. Mais voilà, qui ne connaissaient pas l'assaut, qui ne connaissaient pas cet atelier. Donc voilà, c'est des gens qui sont venus par un autre biais. Une habitude qu'ils ont d'aller à un cours de danse trad et qui finalement va être mis ici, donc ils découvrent tout ce qui se passe autour de ça.
D'accord, c'est chouette. Et niveau aménagement extérieur, est-ce que c'est en plus du four, est-ce que c'est ça qui a porté, qui a créé un peu le. Qui était la graine qui s'est dit tiens, on va faire une semaine autour de ça?
Ouais, en fait, on a eu notre assemblée générale au mois de mars. Et ici, il faut savoir qu'on est sur un local qui est en bail précaire. Nous, l'objectif sur ces années d'occupation, c'est de montrer qu'il se passe des choses, que c'est un lieu un peu. Où les gens se rassemblent, en fait, où il se passe des choses communes avec différentes structures. Voilà, un lieu de vie, un lieu de partage, qui est important pour les gens, en fait, et qui est dans cette notion de réapprendre à faire soi-même, qu'en fait, ce soit... que les gens se rendent compte qu'ils peuvent participer ici, ils peuvent être acteurs. Et donc, à cette assemblée générale, il y avait les membres de Des Idées Plein la Terre qui étaient présents. Et normalement, cette semaine, on l'organise... Enfin, cette semaine de résidence de doctorants, on ne l'accueille pas ici, normalement. Elle se passe à côté de Vitry, le François.
D'accord.
Dans une maison qui a été reconstruite, une maison en plan de bois. Et en fait, là, on s'est dit, plutôt que la faire là-bas, qui est un endroit où il y a très peu de public qui passe, très peu de gens qui... Enfin, c'est dans un petit village à côté de Vitry. Donc voilà, il y a une journée où c'est ouvert au public, mais c'est tout. En fait, on va la faire ici et on va faire des choses visibles depuis la rue, d'où l'aménagement du mobilier extérieur.
C'est quand même marrant de voir, de les voir en fait travailler la terre. Alors, chacun d'un côté de l'autre, et que juste en face, on a des canons de démolition avec le bruit qu'il fait, et que tu te dis, enfin, moi, c'était mon point de vue, c'est qu'il y a plus de vie ici qu'en face, et je trouve ça très admiratif. Et donc, est-ce que des personnes qui passent se posent la même question, en fait? Est-ce que quand tu vois ce paradoxe qu'il y a d'une rue.
Je crois qu'on a quand même abordé la question des grosses machines qui passent, et c'est là aussi où on se rend compte, enfin, nous, on a récupéré des pavés sur le chantier d'en face pour justement faire les soubassements des bancs et tout ça. Et on a rempli, on était 5, on a rempli 2 camions bennes. Et en fait, tu te retournes, tu vois le tas de pavés, ça se voit pas du tout. Et eux, ils arrivent avec une pelleteuse, le mec il est tout seul dans sa pelleteuse, et il fait un coup de pelle et il en a chargé 10 fois plus que toi en 2 secondes. Quoi. Donc ouais, il y a ce contraste un peu. Et oui, je pense que les gens s'en rendent compte. Enfin, en fait, on voit ce tas de déchets là, juste à côté.
Ouais,
et surtout qu'il y a une partie, c'est ce qu'on pose. Enfin, il y a des carreaux de terre, parce que le mur était en carreaux de terre. Donc,
c'est limite, il faudrait marquer, réaliser que les déchets...
Donc ouais, c'est assez... Enfin ouais. Ça montre tout ce qu'on essaye de mettre en avant, quoi, de se dire il y a une quantité de déchets effroyable dans le monde du bâtiment et dont on fait rien et on continue comme ça. Quoi.
Du basilic ou un peu de je sais pas ce qu'on a en... Je crois que ça va être le problème. Il y a du plat. Oui, il y a du plat. On ne
D'accord, c'est pas celui-là, c'est 100 grammes.
Il faut 300 grammes, il n'y a pas de...
Oui, c'est 100 grammes par pizza.
Et ceux-là, il faudra diviser en combien alors? Il fait combien à la base?
C'est 100 grammes par pizza.
Mais tu repères pas 100 grammes.
Ah, 100 grammes, d'accord.
On pèsera 100 grammes.
D'accord, ok. Nickel.
On avait bien fait.
Ouais. Ça, c'est le. Donc. Alors, farine déjà. Farine.
Il va falloir.
Je préfère la garder pour le pain. Béa?
Oui. On a de la farine.
Est-ce que tu as de la farine? Est-ce qu'il t'en reste?
C'est pas là. Sinon, t'as vu qu'il y avait ça là?
Je l'avais laissé de côté exprès.
Ah, ok. Et il nous en faudra.
Oui, non, on en a encore. C'est juste là pour.
Ouais. Voilà. Donc, tac. Bien fariné et après
en 3.
Il faut couper en 3.
Ouais. Donc,
tu pèses pas si tu vas peser ou pas ou tu vas
faire aller. Ouais, ça va être trop long, on a dit de peser. Hein. Je sais pas,
On peut peut-être peser pour voir au début.
Au début pour être sûr parce que. Et... Elle fait combien de parts?
Ça fait 300 grammes.
De toute façon, on peut les découper à l'avance, on est d'accord.
Ouais.
La dernière, elle est petite.
À 3 grammes près, je trouve que.
Aujourd'hui, on a pour projet de construire du mobilier d'extérieur.
D'accord.
Avec des soubassements en pierre, donc des pavés qui sont issus de la récupération, et après de venir jouer avec de la bauge et différents types de constructions en terre pour en faire des bancs et des murets.
D'accord. Donc là, alors, je vois que vous avez dû faire une forme, alors ça ressemble peut-être un peu à un 8 ou c'est une infinie, enfin, vous avez fait une forme, ça c'est juste les soubassements, c'est ça?
Oui, donc on a creusé en tranchée pour l'instant dans la terre dans une zone définie en forme de patatoïde comme l'a dit Adrien. Donc c'est assez organique. L'idée c'est que ce soit avec pas mal de courbes et qu'on laisse un peu place à l'imagination. Et donc pour l'instant, on fait les soubassements pour éviter qu'il y ait de la remontée capillaire dans les constructions en terre qu'on va faire au-dessus. Donc là, on s'occupe de faire en sorte que l'eau ne puisse pas remonter dans la terre et que ça puisse être pérenne dans le long terme.
Ok. Et comment on empêche l'eau de remonter justement dans la terre?
Alors, déjà, en partie, voilà, il y a ces grosses pierres qui vont permettre de surélever le niveau de la construction en terre par rapport au niveau du sol.
D'accord.
Qui, lui, a une teneur en eau qui dépend de la pluie, etc. Et on va... ici, on a fait une... on l'a déposé sur un lit de mortier et de sable. Et donc, en fait, l'idée, c'est que dans ce mortier, on limite fortement la remontée capillaire. Et aussi, via ces pierres, on empêche de l'eau d'aller directement dans la terre par remontée. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on fait un soubassement qui est assez élevé au niveau par rapport au sol. Donc, l'idée, c'est de le dimensionner correctement pour pas qu'il y ait d'eau qui puisse remonter depuis le sol.
Et toi, tu as une idée ou une vision globale de ce qu'il va y avoir comme aménagement au-dessus ou pas?
Non, pour l'instant, j'ai une idée de ce qu'on peut faire avec la bauge.
Ah ben moi je suis... Vas-y, dis-nous ce qu'on pourrait faire avec la bauge justement.
En fait la bauge c'est une matière qui se travaille... enfin en tout cas c'est une technique où on travaille la terre comme de la pâte à modeler. Donc il y a vraiment beaucoup de place à... Donc c'est pas comme du pisé où on va brancher et ce sera très cadré. Là, il y a vraiment beaucoup de place à l'imagination et je pense que justement dans l'idée de vouloir rendre cet aménagement assez organique et assez... ça va nous permettre de faire des courbes, par exemple, ça va nous permettre de lisser des angles, ça va être assez sympa en termes de forme. Après moi, j'ai pas trop ce qu'Adrien a en tête, mais d'accord. Pour l'instant, on avance un peu au feeling, comme lui il dit. Okay. Et je pense que c'est un beau matériau pour faire ça à la bauge.
D'accord.
Puisque ça permet de modeler, de travailler hyper facilement en direct. Quoi.
D'accord. Et alors, imaginons, vous allez peut-être faire des bancs, donc en bauge.
Oui. Ouais.
Ce matériel-là, vu que tu empêches l'eau de remonter, oui, il va pleuvoir dessus. Comment tu protèges ce matériau-là de la pluie et comment ton banc il va vivre avec les intempéries?
Alors l'idée justement c'est de multiplier les techniques pour créer et des assises et en même temps qui serviront pour éviter que la pluie, puisqu'on ne peut pas s'asseoir dans la terre non plus, donc pour éviter que la pluie ne pénètre dans la terre. Donc on va utiliser de la tuile de récupération, okay, qui est assez plate. Je crois qu'on va y prouver aussi une technique traditionnelle où en fait on utilise, on fait comme des torches, comme pour le torchis en terre, qu'on vient placer au-dessus des murets, et après on vient placer une couche de cailloux et une légère couche de terre qui sert de mortier, et en fait la pluie elle ricoche sur les cailloux. Donc on va essayer de, sur une partie du mur, de tester cette technique pour l'éprouver.
D'accord.
Pour voir si ça, enfin, si ça a une quelconque efficacité. Et voilà, donc après sinon on va varier avec peut-être de la pierre, peut-être et peut-être des tuiles au niveau des assises.
Voilà. D'accord, ok. Donc oui, tu construis le matériel en bauge. Mmh. C'est pas la finition, il y aura, oui, une finition, voilà, dessus.
Ce sera on peut dire structurel, ça, okay, va faire la structure et la forme de l'assise, mais ce sera soit protégé par des tuiles, soit par. Moi j'ai jamais testé cette technique dont parle Adrien, mais voilà, donc l'idée c'est de varier pour essayer de montrer la diversité des choses qui peuvent se faire et, ouais, et donc tester les techniques qui n'ont pas encore été testées ici ou dans le cadre de l'association des idées plein la terre.
D'accord. Et alors donc quand tu nous dis que tu ne connais pas cette technique, ça, ouais, veut dire que tu es quand même relativement du domaine. Qu'est-ce qui t'amène? Tu es ici pour une raison particulière ou t'as entendu parler, tu t'es dit tiens ça peut être intéressant?
Alors oui, j'en ai entendu parler, moi c'est du bouche à oreille qui m'emmène ici, puisque en fait je suis doctorant, enfin en tout cas futur doctorant sur la terre.
D'accord.
Et non, c'est à Lyon.
D'accord.
Et donc comme c'est déjà des chantiers qui ont déjà un peu tourné, enfin en tout cas qui ont déjà ramené du monde par Lyon, et okay, bien moi par le bouche à oreille de Lyon, j'ai entendu parler de ce chantier. Et donc je suis là pour. Parce que c'est bien, je pense, en début de thèse, moi je suis pas issu d'un milieu où il y a des maçons de formation, etc. Okay. Et donc d'éprouver et de se rendre compte des techniques, de la mise en place et de toucher un peu la terre, c'est intéressant en parallèle d'un travail de recherche, je pense, pour se faire une idée de ce qui se fait. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis ici. Et donc moi c'est Antoine qui m'a rameuté ici et Sophia qui m'ont rameuté ici et qui eux arrivent plus tard dans la semaine. Antoine demain et Sophia jeudi.
Ok, donc vous allez vraiment une petite compagnie de compagnons à travailler toute la semaine ici.
Voilà, bah, y a un gros collectif de doctorants sur la terre à l'ENTPE d'où je viens.
Okay.
Et donc c'est assez dans la philosophie de participer à des chantiers, de prendre part à des chantiers participatifs en France, pour. Parce que c'est un milieu qui est fortement influencé par le tissu associatif, par ce qui se fait. Enfin, en tout cas, les maçons ont beaucoup d'influence sur le renouveau de la terre et même, ouais, la au niveau sociologique et la philosophie aussi de comment on traite la recherche vis-à-vis de ce qui se fait, ce qui est fait par les maçons, etc. C'est hyper important, de plonger un peu quelques instants, même si c'est bref, dans le monde associatif qui essaie de relancer cette matière.
Ouais, et donc j'ai plein de questions, mais je vais rebondir à ça. Toi, comment tu transmets ça aux non-maçons, aux non-personnes de la recherche? Comment tu transmets ça aux professionnels? Je vois qu'il n'y a aucune bétonnière, il n'y a pas de gros véhicules de chantier. Donc forcément je vois que c'est du travail à petite échelle, petite échelle c'est pas le bon terme, mais comment toi tu te dis comment on peut transmettre ça justement pour que ça se démocratise, pour que ça soit de plus en plus utilisé?
En science on est beaucoup aidé par le matériau qui en fait justement de participer à des ateliers comme ça, ça permet de connaître les points forts du matériau en fait, et l'avantage c'est que la terre en a beaucoup, donc on n'a pas beaucoup de travail à faire en fait pour puisqu'en fait les gens à qui on diffuse quand on fait de la recherche c'est les pairs, et en réalité il y a beaucoup de preuves scientifiques de l'efficacité de la terre sur plein d'aspects, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue même socio-économique avec l'économie circulaire, voilà, ça fait vivre d'un tissu associatif fort. On recrée de la main d'œuvre qualifiée. En tout cas, il y a de la main d'œuvre qualifiée qui s'est pas perdue puisque c'est des maçons qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances, qui ont souvent, enfin, qui connaissent beaucoup mieux la terre, peut-être même que certains chercheurs sur la terre, quoi. Et voilà, donc ça a des propriétés aussi de confort thermique, confort d'un point de vue de l'humidité relative du bâtiment, etc. Donc il y a vraiment beaucoup d'avantages en fait à l'utilisation de ce matériau et à sa, disons à sa diffusion et aux diffusions des techniques.
D'accord.
C'est bien qu'il y ait des gens qui diffusent les techniques comme des idées plein la terre, en parallèle du travail de recherche qui est fait. Après voilà, il y a un peu des visions militantes, donc il y a des discordances sur est-ce que on cherche à industrialiser le matériau pour en faire pour intéresser l'industrie.
D'accord.
Ou est-ce que finalement c'est pas un contresens de faire ça par rapport au matériau? Okay. Et on cherche à remettre justement de la main d'œuvre qualifiée, du sens dans la construction, dire qu'on a le droit de prendre le temps de construire moins vite, construire plus intelligemment, avec du local. C'est dans ce sens-là que la recherche peut aider à diffuser les idées de la terre crue en parallèle, évidemment avec tout ce qui se fait dans le tissu associatif et avec des gens comme Adrien et des idées plein la terre qui diffusent des idées et des techniques et des savoir-faire.
D'accord. Alors tu parlais de localité et toi tu me dis que tu venais de Lyon. Donc question bête, ce que tu fais ici, tu pourrais faire la même chose à Lyon? Est-ce que c'est la même terre à Lyon? Est-ce que tu travaillerais de la même façon?
Alors question pas bête du tout, puisque il y a beaucoup de travaux sur les convenances des terres j'invite peut-être Loris qui travaille sur le chantier aujourd'hui à répondre puisqu'il travaille sur ce sujet. Mais en fait dans le bassin lyonnais c'est très très répandu l'architecture en terre crue. C'est la technique du pisé qui est la plus communément utilisée. Ça va dépendre des types de terres et même de l'évolution locale des savoir-faire. Je sais que par exemple en Bretagne il y a beaucoup de bauges. Ici on travaille beaucoup on travaille beaucoup sur des maisons à colombage, donc du torchis. Enfin c'est des techniques qui sont locales et qui correspondent plus à des savoir-faire qu'à des types de terres, puisque de partout on trouve des terres et des terres argileuses pour faire des enduits et des terres avec des propriétés intéressantes pour faire du pisé, de la bauge, etc. Et donc en fait finalement même avec des ajouts de fibres, de sable, on arrive à en faire beaucoup de choses d'une même terre en fait.
D'accord.
Et je pense que voilà, sur Lyon il n'y aurait pas beaucoup de différence, mais c'est vrai que j'aurais du mal ici, dans le Nord, on s'est plus spécialisé sur la bauge et chez nous, beaucoup plus sur le pisé.
Ok. Donc, tu veux nous dire la différence des deux ou ça serait trop long et...
J'invite les personnes à venir directement à la cantine des Borestes voir. Il y a une petite exposition justement sur ça, s'ils veulent en apprendre plus. Et toi, comment tu pourrais nous expliquer la différence entre la bauge et la technique de pisé ou du pisé, tu m'as dit ?
Oui, c'est ça, du pisé. Donc en fait, le pisé, ça consiste à... Donc, comme pour couler des murs en béton, tout le monde a déjà vu ça, des banchages. Donc on a un moule en quelque sorte en bois dans lequel on vient poser de la terre qu'on a légèrement humidifiée et donc qui est à l'état... encore plastique mais on cherche un état d'humidification très faible de la terre et donc l'idée c'est de la taper pour en faire des couches très compactes et qui résistent assez bien à la compression, en tout cas pour ce qu'on veut en faire.
Quand tu dis que ça résiste très bien,
quand je dis que ça résiste très bien, c'est qu'on peut en faire un matériau de construction très facilement pour du R+1, R+2, c'est-à-dire 3 étages, 2 étages. Enfin, en tout cas, on n'en fera pas des ponts. Mais...
Oui, mais au moins, ça parle à tout le monde.
Voilà.
De dire on peut faire une construction de 2-3 étages, je pense qu'on est tous capables.
Et de toute façon, la résistance à la compression, en fait, ça reste juste un indicateur de l'épaisseur de mur qu'il faut faire pour que ça résiste. Donc on n'est jamais, en fait, on n'est jamais trop borné par, par la résistance à la compression. Et donc c'est ça qui est intéressant aussi dans la convenance des terres, c'est de se rendre compte que bon, certes, il y a des terres qui résistent moins bien avec une technique, mais on peut les mettre en place avec 5 cm de plus et répondre aux exigences techniques d'un bâtiment à 2 étages, 3 étages. À Lyon, en tout cas, il y a un beau bâtiment qui a été fait avec des arches en pisé. J'invite les gens à se renseigner, qui s'appelle l'Orangerie, qui est dans le nouveau quartier Confluence, et qui est la preuve que c'est du côté peut-être un peu plus commercial de la terre, mais en tout cas qui est une preuve qu'on arrive à faire des beaux bâtiments et à construire assez rapidement en terre et avec des défis techniques et architecturaux assez forts, quoi. Des parties pris, des beaux parties pris.
Ok, chouette. Eh bien, écoute, je te remercie, je vois le soleil qui arrive donc à la tournée.
C'est vrai que ça fait du... Alors, c'est vraiment très très bien,
très bien organisé. Moi. Reste, franchement, l'organisation,
ah bah, mais
toujours, hein,
mais attends, mais même sans parler des restes, parce que déjà ce qu'il y a, la qualité en dehors. Ah bon. Oh là là.
Elle nous fait des peintes.
Ah bah oui.
Oh là là.
Donc on était en train de parler justement du travail de la vigne qui permet voilà, d'apporter quelques boissons pétillantes ou non pétillantes des fois que l'on peut consommer d'ailleurs au bon reste. Mais... à partir du moment où on est adhérent de l'association.
Mais par contre, pas de champagne.
Il n'y a pas de champagne, non, mais on peut avoir du vin blanc, du vin rouge. Après, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que nous dirait le... les belligérants, les protagonistes.
Les belligérants.
Non, non, pas les belligérants, les.
Non, c'est pas les... trop l'ambiance bon reste.
Non,
les
c'est
pas
ça. Non, les gérants. Les gérants. Les membres de l'association.
Bonne fin de journée, à bientôt.
Salut.
Merci, au revoir.
Retrouvons Camille aujourd'hui. Alors Camille, on l'avait entreaperçue sur un atelier de la terre en début de semaine. Et là, quand on est revenu se balader, elle travaillait le bois, atelier palette. Et je me pose la question, Camille, qu'est-ce qui t'amène à la semaine prochaine aujourd'hui?
Je suis ici principalement pour l'atelier, le chantier terre initialement. Les ateliers à côté, pour moi c'est un plus, mais j'en profite parce qu'il y a plein de belles choses qui se font en atelier manuel. Mais initialement je venais pour l'atelier terre, le chantier terre cru qu'on fait. Donc là on vient de construire du mobilier en palette de bois, mais on est aussi en train de faire du mobilier en terre crue. Qui se monte petit à petit, on fait des bancs, des murets, et voilà.
Toi, qu'est-ce qui t'a amené? Si t'as vu une annonce, déjà tu connaissais Adrien, tu connais le monde de la terre.
Alors je connais Adrien, mais je l'ai rencontré sur un chantier l'année dernière, et en fait c'est via mon colocataire qui lui fait une thèse sur la terre crue.
D'accord.
Que tu as interviewé lundi, qui s'appelle Loris.
D'accord.
Donc on est en colocation à Nantes et moi je suis pas du tout dans le domaine de la terre crue, mais il m'a fait découvrir ce monde et il m'a emmené sur mon premier chantier il y a un an à tout casser, et je me suis prise de passion pour ce type de construction parce que c'est pas que des compétences qu'on apprend, c'est une expérience humaine, je trouve, de construire en terre de nos mains. On sait qu'on peut faire monter un mur en quelques heures avec juste ce qu'il y a sous nos pieds. Et je trouve ça beau, et puis il y a le côté social aussi, de l'entraide, quand on se lance les pâtons de terre et qu'on fait des chaînes humaines pour amener jusqu'au mur. Et du coup, depuis ce premier chantier, j'en ai fait pas mal l'été dernier.
D'accord.
Et après, il y a eu l'hiver, et l'hiver, c'est pas la saison de la terre, parce que c'est trop humide. Et là, il refait beau, donc c'est la première fois que je retouche la terre en 2023 pour construire. Et donc, dès que j'ai entendu qu'il y avait une semaine de chantier, je suis tout de suite venue.
D'accord. Alors, tu dis que c'est pas du tout ton domaine.
Non.
Ton domaine, à toi, c'est quoi?
Alors moi j'étudie la pollution plastique dans la Loire.
D'accord.
Et plus précisément les microplastiques. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Il y a eu pas mal de bruit sur la pollution plastique ces dernières années. On a vu des images choc avec des plastiques sur les plages, des pailles dans les nez des tortues, des poissons dans les petites... les cerclages en plastique des canettes de bière ou des choses comme ça. Et en fait, il faut savoir que ces plastiques, ils ne restent pas ad vitam aeternam sous forme de macro, c'est ce qu'on appelle les macro-déchets, c'est les déchets tels quels. Mais ils finissent par se dégrader à plus ou moins rapidement sous l'effet des UV, de l'eau, de l'action mécanique des vagues.
La corrosion naturelle peut-être pour du plastique.
C'est ça, il y a l'effet mécanique, l'effet biologique aussi, des petites bactéries ou des organismes vivants vont venir casser le plastique et le fragmenter. Et dès qu'on atteint des tailles inférieures à 5 mm, on parle de microplastique.
D'accord, je pensais que tu es même plus petit que ça, mais d'accord, microplastique.
Non.
Ça sera nanoplastique après.
En dessous de 1 micromètre,
d'accord.
C'est ça la gamme, c'est 1 micromètre jusqu'à 5 mm.
Okay.
Ou 5000 micromètres. Et en dessous de 1 micromètre, on parle de nanoplastique. Et on fait la différence parce que les nanoplastiques peuvent passer les barrières des organes, par exemple, contrairement aux microplastiques. Donc ça a d'autres effets.
Ouais. C'est pas le sujet, mais ouais, j'en trouve bien.
Ouais.
Mais en fait, ouais, je peux comprendre ce qui peut t'amener d'un sujet à un autre. Quand on s'intéresse à la pollution comme ça, s'intéresser à du travail comme travailler la terre, je vois bien le, et travailler avec les autres personnes, je vois bien le rapprochement. Et là, tu restes toute cette semaine ici ?
Eh ben, j'ai pas encore décidé, mais c'est possible.
Ah oui, à chaque matin, tu dis, ouais, c'est la dernière journée.
C'est ça.
Et en fait,
je me dis, bon, c'est pas tous les jours que je peux faire un chantier comme ça. Bon, je vais en faire probablement tout l'été, mais là, c'est avec les copains, donc c'est cool.
Tu sais déjà à peu près où tu voudrais aller cet été ou est-ce que...
Oui, j'ai un chantier en vue pas loin de Rennes. Je suis allée l'année dernière aussi. J'en ai entendu parler par le bouche à oreille.
Ouais.
Et c'est vraiment... là, ça va être ouvert tout l'été.
Donc, ok, un chantier de...
Alors, c'est une ancienne ferme. Qui était historiquement construite en terre et qu'on est en train de rénover en fait.
D'accord.
Et l'idée c'est qu'à terme cette ferme devienne un lieu où il y aurait plein d'artisans, un artisan boulanger, un artisan potier, plein de métiers manuels. Ça devienne une sorte de lieu vraiment à côté de Rennes où il y a un petit lieu écolo. Quoi. Et on a aussi fait une muraille, c'est assez impressionnant, une muraille qui fait 5 mètres, 6 mètres de haut, rien qu'en terre. Depuis l'été dernier, le mur en juin, il n'y avait rien. Il y avait vraiment... On a commencé les soubassements en pierre, parce qu'il faut savoir que, bon, peut-être que Loris te l'a dit, mais il ne faut pas que la terre du mur touche la terre du sol, pour pas que l'eau vienne détruire le mur. Donc on fait un soubassement, là en l'occurrence c'était en pierre sèche, donc enchevêtrées les unes dans les autres. Et donc on est parti de ça en juin, et en septembre on est arrivé à 5 mètres de haut sur, 10 mètres de long.
D'accord.
Et on a fait un retour aussi, et c'est assez impressionnant de voir une muraille de terre comme ça.
Alors on est que mercredi, mais c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que tu as appris pour l'instant ici? Je suppose que tu as appris plein de choses, mais qu'est-ce que tu as retenu, quelle expérience tu as trouvée enrichissante depuis le début de la semaine et que tu as envie de nous partager?
Ben, je suis arrivée samedi soir pour la soirée concert, c'était vachement cool. Et dimanche, il y a eu un atelier, une balade botanique comptée.
Ah, animée par Erwan.
Animé par Erwan. Qui est tailleur de pierre. Ouais, tout est lié en fait, la pierre, les plantes, la terre. Et j'adore faire des balades botaniques comme ça, mais que ce soit compté, c'est encore, ça apporte un plus parce que on retient les plantes. Alors que quand on fait une balade botanique, souvent on nous montre 20, 25 plantes et on en retient au final qu'une ou deux. Et encore, c'est difficile de se souvenir du nom. Mais là, quand c'est compté, c'est vraiment, on retombe en enfance et c'est vraiment vivant, quoi. Ça rend visible les plantes qu'on voit tous les jours, mais on passe à côté sans y faire attention. Et donc, faire attention à ces petites plantes.
C'est vraiment des grosses tranches. C'est grave. Attends, je vais la repasser.
Parce que c'est très fin, en fait.
Trop beau.
Ça veut dire les toilettes en anglais.
Ouais. On va les coucher sur le. Je te tiens et tu fais. Tu coloris. Alors appuie pas trop fort. Hein. Appuie pas trop fort. Voilà. Parce que si c'est peut-être plus trop fort, tu fais bien les contours d'abord. Appuie pas trop fort, sinon ça fait pas très bien. Quelqu'un fait le... Bah, quelqu'un d'autre, non, qui est-ce qui veut faire ?
Je vais faire ça.
Ouais. Après, on fera la fraîche.
Pedro, c'est toi qui as fait ça avec ton cœur. Ah, tu as fait avec ça, c'est les seins.
Oui, ça, c'est ça.
Bienvenue à cette restitution de l'atelier de poésie et de poésie sonore. Donc, on est très heureux de partager ce moment avec vous. Et alors, on va vous demander de participer un petit peu. Alors donc, là, vous avez un... Il y a plusieurs i, donc ça fait... Comment tu t'appelles?
Loïc.
Loïc, il faut faire pchit plus longtemps. Hein. Est-ce que je t'ai vu, tu faisais pas pchit? Et toi, c'est quoi?
Xavier.
Xavier, il faut faire pchit aussi. Ok, attention. Un. Attention, quand ça boue, ça fait... Ouais, mais doucement le bloup. Ok, ok, et là. Oh, c'est bon! Oh, qu'est-ce que c'est bon! Miam! Ah non, mais on n'y croit pas là! Faut y aller là! C'est bon alors! On est chez les Mourestes alors!
Yeah! On trouve les chats alors!
Ouais! Ok, on y va! Et donc, nous allons avoir la preuve. Qu'est-ce que j'ai fait, les petits papiers? Ok. Hop! Donc, maintenant, bah attends, on va faire un tirage au sort. Vous êtes combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, vous allez lire votre petit recette. Et donc là, vous allez avoir 7 recettes. 7 recettes et une recette collectivo sonore. Et donc... Donc on va sonoriser toutes les recettes, hein, vous le public, hein, vous allez sonoriser, et vous aussi, hein, vous pouvez... Mais vous le faites avec vos onomatopées à vous, hein, d'accord? Ok. Et donc, je vais demander à une main innocente, bah, tiens, une dessinatrice.
Il n'est pas innocent.
Ah bah ça,
tant mieux.
Il y en a qui dénoncent, hein. Vas-y, vas-y. Et donc, le premier à venir sur ça. Bah ouais, non, mais je te dis, on avait prévu Bercy, il pouvait pas, mais c'est là, on est... Et donc, le premier à venir sur cette scène sera une première, puisqu'elle s'appelle La Bouchée à la Reine. Et on l'accueille, oui.
Je suis venue vous présenter une recette que je détiens de ma grand-mère, qui la détenait, de l'arrière-grand-grand-mère qui paraît-il, en faisait des caisses. Caisses de la cuisine. Une recette. Des bons restes. Quoi? Hein? Des feuilles de chou mal lavées. Des tomates écrasées. Des asperges multipliées. Où ça? Près du canal, à deux pas, dans une friche. Regarde bien l'affiche. On cuisine, on rigole, on fait sonner les casseroles. Plus on est fou, plus on rit. On mélange le chocolat et le riz. On apprend, on écoute pendant que la salade égoutte. Personne ne se fait violenter, ni ne se fait maltraiter. Notre recette commune, une caisse de salade frisée, un tonneau de fruits confits, un carton de tomates violentées sur un lit de pâtes feuilletées.
Yeah.
Yeah.
En fait, on avait trois mots à caser dans la recette.
Oui,
c'est ça. Ça paraît bizarre des fois, mais.
J'ai été glané des recettes, des mots pour des recettes. Et donc, après, ils ont dû faire des recettes avec ces mots-là.
Ouais.
Il y avait violenté, non?
Il y avait violenté dans
le. Non, je pense que.
T'avais quoi comme.
J'avais caisse, cuisine et violenté.
Ah oui, une recette de caisse de cuisine violentée. Voilà. Choisis le prochain ou la prochaine.
Et je lis ou c'est toi?
Oh ben c'est moi, enfin moi que tu veux
non,
dire.
Non, pas toujours toi. Ah ben, la décaloteuse, la décaloteuse d'œuf à la coque.
Ouais.
Recette d'ailes glanées en terre crue. Pour une demi-douzaine d'ailes glanées en terre crue à partager avec des inconnus, penchez-vous sur vous-même comme les escargots pour redevenir proche du sol qu'on oublie trop souvent et qui, lui, ne nous oublie pas, car lui, il nous attend. Attendez-la, jusqu'à vous endormir presque. Et lorsque vous frôle le sommeil, entr'ouvrez votre paupière la plus souple et laissez-y entrer à 37 degrés un rayon de soleil. Refermez la paupière, laissez chauffer couvert le temps que de vous souvenir d'un projet oublié. Alors, ouvrez à nouveau l'œil. Une larme séchée en tombera sur la terre à vos pieds, juste là. Se couvrant de poussière, prendra la forme d'une aile. Une aile de fée. Une fée dépiautée, torturée, démembrée, sanglante, à l'agonie, étreinte par une souffrance sans fin. Ah ! Mais il n'en sait rien. Car l'aile glanée en terre crue, c'est un plat végétarien. Alors savourez bien, vous ne serez pas déçus. Aile glanée par terre. Qui l'eût cru ?
J'ai mis où les... J'ai mélangé les papiers. Alors attends. Il y en a toi qui sont déjà passés. Vous avez des canaux passés. Ah, tu m'as piqué les... Ah non, c'est le tien.
C'est vrai que ça donne
pas peur. On dit que tu l'as tiré.
Et maintenant, messieurs, dames, le boni...
Ah si, après Bonnie and Clyde, le boni...
Il est bonne. Il est bonin, mais il n'est pas menteur. C'est le boni menteur.
Ouais.
Bravo. Oui, bravo.
Ma grand-mère avait des recettes pour tout et pour n'importe quoi. C'était souvent astucieux et toujours savoureux.
Ah, ça pique.
Savoureux, ça pique pas. Elle évoquait notamment... une recette de bonne réputation, autrement dit, une recette de bonne femme qui pouvait s'adapter à tous les sujets.
Ah, ça pique.
Un jour, son petit-fils lui demande une idée pour sa rédaction sur le thème du ciment numérique. Ou comment refonder la société civile à l'ère du numérique. La recette est la suivante. Prendre un brin de bonne humeur, un gros soupçon de bonne bouffe, une pincée de sel de la vie, une musique aérée et la magie d'un sourire. En option, un presse-blague. Ah, ah, ah.
Tiens, parce que c'est toi. Il y en a que j'ai remis dedans. Hein.
Et maintenant, sous les applaudissements ébahis de la foule, la phrasette.
Ouais, ouais.
C'est la recette de la rencontre du bonhomme à la buvette. Yeah. Ingrédients bonhomme buvette. Prenez une buvette, nettoyez-la soigneusement, laissez sécher. Déverbez, décorez-la pour qu'elle soit coquette. Préparez un bonhomme de pain d'épices. Émiettez-le. Déposez dans une cuvette. Laissez reposer. Et on va la rencontre dans cette cuvette. Apportez votre cuvette remplie de ces miettes de bonhomme de pain d'épices. Installez-vous et dégustez. C'est chouette, n'est-ce pas ?
Bien.
Yeah.
La choucroute garnie, elle n'est pas passée, la choucroute garnie. C'est qui, la choucroute garnie ?
C'est moi.
Ah, ben.
La choucroute garnie. Oui, oui, oui.
Alors, il y avait le mot « grand-mère ».
grand-mère, il y avait le rencontre, la rencontre et le bonheur. C'était trois mots que j'avais.
La recette de grand-mère de la rencontre du bonheur.
Recette grand-mère de la rencontre du bonheur. De la grand-mère au bonheur, il n'y a qu'un pas. Prenez une mère, plutôt grande, secouez-la bien, plusieurs fois. Coupez-lui le sifflet et mettez-le dans l'autocuiseur.
Yeah.
Laissez mijoter la mère dans un peu d'eau salée avec un grand verre de bonheur. Vérifiez la date de péremption.
Tu ne seras pas en reste. Avec les bons restes, tu ne seras pas en reste.
Si vous ne voulez pas quelques malheurs, mère salée, n'oublie pas de divaguer.
Tu ne seras pas en reste.
Assaisonnez-la de petits légumes.
Avec les bons restes, tu ne seras pas en reste.
Comme le pain, vous l'avez
tu ne seras pas en reste. Avec les bons restes.
Grâce de Bretagne.
Avec les bons restes.
Tu commanderas la suite.
Avec les bons restes.
Cœur d'artichaut, grand-mère est cuite. La Véloie est à toi.
Avec les bons restes, tu ne seras pas en reste. Avec les bons restes, tu ne seras pas en reste.
C'est une question de bonne humeur.
Tu ne seras pas en reste. Avec les bons restes, tu ne seras pas en reste. Avec les bons restes, tu ne seras pas en reste. Avec les bons restes, tu ne seras pas en reste. Avec les bons restes, tu ne seras pas en reste. Avec les bons restes, tu ne seras pas en reste. Avec les bons restes, tu ne seras pas en reste. Avec les bons restes, tu ne seras pas en reste.
Qu'est-ce que j'ai fait des petits papiers?
Ah oui, on peut pas le dire, il y a des enfants.
C'était la
poteuse. Attends, mais il reste.
Ah, on était petits trop.
Non, tout le monde n'est pas passé.
Bah non.
Qui c'est qui est pas très passé?
Lui.
Bah,
pas
question.
Pas
ah bah si, je les ai mis là.
Oui, c'est parce que t'as tiré ta queue, donc je croyais qu'elle allait déjà la lire sans qu'on fasse.
Mais ouais, mais on va. Là, c'était l'échauffement.
C'était l'impro.
Ah oui, c'était l'impro.
Vous avez déjà tiré? Ah, c'est à toi là. Allez, c'est trop bien.
La bétonneuse.
Rien, je peux danser.
La bétonneuse.
Ouais.
Ouais. La bétonneuse, en un seul mot, c'est pas la bétonneuse.
Bon alors, moi c'est recette numérique d'un ciment de bonne femme. Commencez par ouvrir son ordinateur. Naviguez sur le web à volonté. Cherchez quelques ingrédients bien sableux. Prenez une bétonnière et fourrez-y du béton. Bien mélangez avec de l'eau. Si tout va bien et sans faire de drame, vous obtiendrez un magnifique Boogie Boulga de bonne femme.
Recette violente de vieille de cuisine. Une batterie de cuisine qui se prend la tête. Un batteur électrique, un fouet, une rame, un couteau bien pointu, un robot pâtissier, un pâtissier. Un presse-agrumes, un soir, une planche à découper. Voilà toute la batterie pour
Aïe, ok.
Monsieur,
ah ouais, mettez-vous tous les deux là. Bien, ah, plutôt ici.
Moi,
plutôt
je me mets
ici.
À côté de voilà, Sylvie, peut-être. Ah, c'est dans l'ordre.
Attends. Mets-toi là, ici. Donc, c'est glouglou. Ah, tu peux te mettre là, alors. Voilà. Tu feras glouglou, alors, ok. Alors, mets-toi là, et puis. Donc, c'est que. Mets-toi au milieu.
Bien.
Ah, allez.
Ah oui.
Ah non, t'es bien au milieu. Non, c'est toi qui
dois être
au milieu.
Oui, c'est bien qu'elle
joue.
Ah
oui,
voilà.
Oui, parce qu'elle joue. Les deux au milieu.
Voilà. Bravo.
C'est pas terminé.
Non. Ouais, on a aussi, on a fait ça.
Yeah!
Avec les bons restes, tu ne seras pas en reste. Et la grand-mère, au bonheur.
Avec les bons restes, tu ne seras pas en reste.
Il n'y a qu'un pas.
Prenez une mère plutôt grande.
Secouez-la bien plusieurs fois et coupez-lui le sifflet.
Avec les bons restes, tu ne seras pas en reste.
Vérifiez la date de péremption.
Avec les bons restes, tu ne seras pas en reste.
Si vous ne voulez quelques malheurs. Mère salée, n'oublie pas de divaguer. Assaisonnez-la de petits légumes. Comme le prince vous le confia. Prince de Bretagne. Tu commanderas la suite.
Avec les bons restes, tu ne seras pas en reste. Avec les bons restes, tu ne seras pas en reste.
Cœur d'artichaut.
Avec les bons restes, tu ne seras pas en reste.
Grand-mère est cuite. La Belloie est à toi. C'est une question de bonheur.
Bravo.
Récupère quoi. Donc voilà, elles sont parfaites.